VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahmane Dia en direct de Washington pour cette édition de 19h30 en universel. Nous sommes lundi 19 février 2018 au sommaire. En Centrafrique, une trentaine de corps repêchés dans deux cours d'eau à Bria, dans le centre du pays. Ouverture à Lomé du dialogue politique au Togo pour tenter de mettre un terme à 6 mois de crise. Les enseignants guinéens entament leur 2e semaine de grève. Le gouvernement menace d'opérer des coupes sur les salaires. Et le 7e art africain en deuil depuis hier avec la mort du cinéaste burkinabé Idrissa Ouédraou.
Toutes les histoires peuvent être belles, c'est le traitement. Tout a été dit, tout a été fait dans le monde, c'est le traitement. Moi, ce que je peux dire tout simplement, à chaque fois qu'on fait ces films, ce que je ne trouve pas beaucoup dans le cinéma africain actuel, c'est à qui on veut parler.
Et puis, ici aux États-Unis, des élèves ayant survécu à la tuerie dans un lycée en Floride prévoient de marcher sur Washington. En Centrafrique, Bria, dans le centre-est du pays, encore en proie aux violences, une trentaine de corps ont été repêchés ces derniers jours dans deux cours d'eau de la ville, selon des sources humanitaires. De Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Selon une source humanitaire contactée par VOA Afrique, au moins 19 corps sans vie ont été repêchés dans la rivière Lakoto et 13 autres dans le Marigo Pende. Il s'agirait tous des déplacés qui ont tenté de regagner leurs habitations, profitant du calme apparent qui règne depuis quelques semaines dans la localité. Les cadavres ont été vus, selon des témoins, dans le secteur de l'ancienne direction des mines au quartier Lassemi. D'autres sources ont évoqué cependant une dizaine de morts sans parler de tueries de masse. D'après une autorité locale de Bria, deux journalistes européens en reportage et circulant sur la rivière Koto à Pirogue ont été interceptés et tabassés par des ex-silicats avant d'être relâchés. Leurs équipements de travail, caméras, photos et autres ont été détruits. Le député de Bria 1, Arsène Kongbo, qui mène actuellement une sensibilisation en faveur de la paix dans cette ville, confirme avoir été mis au courant de cette affaire, mais il n'a pas donné plus de précisions. Bria est l'une des villes de la République centrafricaine qui échappe encore au contrôle du pouvoir central. La situation humanitaire y est catastrophique, vu le nombre des déplacés internes, plus de 60 000. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Ouverture à Lomé du dialogue politique entre pouvoir et opposition. Après 6 mois de manifestations pour exiger des réformes constitutionnelles, les discussions vont durer une dizaine de jours. Anastasie Touliech.
À la cérémonie d'ouverture, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a dit que la paix, la liberté et la stabilité du peuple togolais n'étaient pas négociables. Il a fait tout son discours en français pour être bien compris par tout le monde autour de la table. Une coalition de 14 partis d'opposition et le parti au pouvoir ont finalement accepté de s'asseoir autour d'une même table. Ce dialogue doit durer une dizaine de jours. Il devrait aborder plusieurs sujets comme le rétablissement de la Constitution de 1992 qui prévoyait un maximum de 2 mandats présidentiels. Sur les réseaux sociaux et dans la rue, de nombreux Togolais sont sceptiques. Ils critiquent la tenue d'un énième dialogue dans un pays gouverné depuis plus de 50 ans par la seule famille Gnassingbé.
Nous reviendrons sur le dialogue politique au Togo dans la partie magazine. Au Nigeria, les 5 agents de police qui étaient accusés d'avoir tué le fondateur de la secte Boko Haram en 2009 ont été réintégrés. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole de la police nigériane. Selon lui, la demande de réintégration a été accompagnée d'une décision de justice statuant qu'ils avaient été acquittés des accusations portées contre eux. Ces officiers étaient inculpés pour avoir tué Mohamed Youssouf, le leader du groupe Boko Haram, alors qu'il était en garde à vue en juillet 2009. Le pape François a accepté la démission d'un évêque nigérian contesté depuis plusieurs années par des prêtres et des fidèles de son diocèse dans le sud du pays. Dans un communiqué, le Vatican précise que le pape a, dans le même temps, nommé un administrateur provisoire pour ce diocèse. Au Niger, 2 journalistes de la radio Enfani, partenaires de VOA Afrique et un homme politique, ont été interpellés ce matin par la police judiciaire pour une affaire de propos ethnocentristes tenus sur les antennes de cette radio. Après des heures d'audition, ils ont été libérés mais doivent y retourner mercredi. Précision avec notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
Les deux journalistes, Grema Boukar, directeur général, et Moudi Moussa, rédacteur en chef de la radio Amfani, ont été auditionnés toute la matinée de ce lundi par des officiers de la police judiciaire de Niamey. Selon la radio Amfani, cette audition est en lien avec la diffusion sur ses antennes de propos ethnocentristes par le président du parti nigérien pour l'autogestion, par ailleurs conseiller du président de la République, Sanoussi Tambari Jacou. Ce dernier était d'ailleurs lui également dans les locaux de la police judiciaire. En début d'après-midi, ils sont ressortis. Selon le rédacteur en chef de la radio Amfani, contacté par VOA Afrique, il leur a été demandé de se représenter mercredi matin. La diffusion de ces propos a été suivie sur les réseaux sociaux, notamment par des messages haineux et ethnocentristes qui ont amené le président de la République à instruire le gouvernement pour tout mettre en œuvre pour identifier, poursuivre et réprimer les auteurs, co-auteurs et complices. Abdulrazak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
La France a accusé la Guinée équatoriale devant la Cour internationale de justice de vouloir paralyser la justice française dans l'affaire dite des biens mal acquis. Le vice-président équato-guinéen a été condamné par un tribunal parisien. Environ 224 millions de personnes sont sous-alimentées à travers le continent africain. Selon les Nations Unies, le changement climatique et les conflits renforcent l'insécurité alimentaire. Le père d'un Ivoirien de 8 ans blotti dans une valise pour passer la frontière espagnole en 2015 sera jugé demain. L'image, vous vous rappelez, avait choqué le monde entier. Mais je vais à ce procès très confiant parce que je ne suis pas un trafiquant d'êtres humains. « Je n'allais pas trafiquer mon propre enfant », a dit Ali Ouattara, 45 ans, donc avant l'ouverture de son procès dans l'enclave espagnole au Maroc. Le 7e art africain est en deuil avec la mort du réalisateur burkinabé Idrissa Ouédraogo. Les hommages continuent à pleuvoir pour cet auteur d'une quarantaine de films qui lui a valu de hautes distinctions telles que le Grand Prix du jury à Cannes pour Tilaï en 1990. Voici un extrait d'une interview d'Idrissa Ouédraogo pour VOA Afrique.
Il m'est difficile de juger ce que mes autres camarades font parce que je pense que chaque film que...
Mais pourtant avec votre expérience, ça peut être votre rôle.
Oui, mais ce qu'ils ont envie de faire, toutes les histoires peuvent être belles. C'est le traitement. Tout a été dit, tout a été fait dans le monde, c'est le traitement. Moi, ce que je peux dire tout simplement, à chaque fois qu'on fait ces films, ce que je ne trouve pas beaucoup dans le cinéma africain actuel, c'est à qui on veut parler et qu'est-ce qu'on dit de nos films et qu'est-ce qu'on veut apporter au monde, c'est tout. Et l'Afrique a quoi à donner aux autres mondes? Oui, peut-être ça peut être intéressant. Mais l'Afrique, les Blancs ont dit oh, c'est l'arbre à palabre, c'est des contes, c'est marche. Mais c'est beau les contes. C'est beau l'arbre à palabre, c'est beau les discussions, c'est beau les mythes et les mythologies africaines parce que c'est l'essence du monde, c'est l'histoire de la vie.
Vous pouvez écouter l'intégralité de l'interview d'Idrissa Ouédraogo dans le RM Show tout à l'heure à 20h en temps universel.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'auteur de la fusillade dans un lycée de Floride la semaine dernière est apparu ce lundi devant un tribunal de Fort Lauderdale pour une audience technique. Vêtu d'une combinaison orange de détenu, Nicolas Cruz, âgé de 19 ans, est resté la tête baissée pendant que son avocate et la juge Elizabeth Scherer discutaient de la procédure en cours lors d'une brève audience. Le jeune homme a été inculpé jeudi de 17 meurtres avec préméditation après avoir perpétré la veille l'une des pires tueries dans une école américaine. De son côté, le président Donald Trump s'est pour la première fois montré favorable à un durcissement de la législation sur l'achat d'armes à feu. Jacques Aristide.
Tandis que les discussions se poursuivent et que des modifications sont envisagées, le président soutient les efforts pour améliorer le système fédéral de contrôle des antécédents, écrit dans un communiqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders. Il est notamment question d'un projet de loi bipartisan qui a été présenté pour améliorer la législation fédérale. Le FBI, la police fédérale, a reconnu avoir négligé des renseignements qui auraient pu permettre d'empêcher Nicolas Cruz, le jeune homme de 19 ans qui a tué 17 personnes dans son ancien lycée, de passer à l'acte. Pour le président Trump, c'est inacceptable. Sur Twitter, il a écrit que le FBI était trop occupé à tenter de démontrer une présumée collusion entre la Russie et son équipe de campagne pour la présidentielle de 2016. Quant aux élèves survivants de la fusillade, ils manifesteront le 24 mars à Washington et dans d'autres villes. Baptisée Marche pour nos vies, le rassemblement appellera à un contrôle plus rigoureux sur les armes à feu, un débat récurrent aux États-Unis après chaque fusillade.
L'aviation syrienne a bombardé ce lundi l'enclave rebelle de la Ghouta orientale, tuant 44 civils, dont 4 enfants. C'est ce qu'a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ce regain de violence intervient alors que les forces pro-gouvernementales syriennes se préparent à entrer dans une région du nord-ouest de la Syrie, Afrin, pour soutenir une milice kurde face à une offensive de la Turquie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manelakiza.
Le Burkina Faso veut injecter plus de 154 milliards de francs CFA au plan d'urgence pour le Sahel en 2018. Ces fonds serviront à la mise en œuvre de politiques multisectorielles dans les régions et les zones en proie à des problèmes d'insécurité. Le gouvernement cherche aussi à renforcer sa présence dans les régions les moins développées du pays. En 2017, Ouagadougou a investi 81 milliards de francs CFA pour la construction d'infrastructures sanitaires et sécuritaires. Entre 2017 et 2020, le gouvernement prévoit de dépenser 455 milliards de francs CFA pour une réponse au double défi socio-économique et sécuritaire qui secoue au Sahel. Les dirigeants de la CDAO se sont donné rendez-vous à Accra le 21 février pour accélérer le processus de création d'une monnaie unique. Les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana, Mohamedou Buhari du Nigeria, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Mahamadou Issoufou du Niger, qui constituent la task force, vont adopter une nouvelle feuille de route pour la mise en œuvre de ce programme. Plusieurs experts régionaux ont rédigé un document à soumettre aux quatre chefs d'État. La CDAO compte actuellement 8 monnaies à son sein et espère mettre en place définitivement sa monnaie unique d'ici à 2020. L'Égypte et Israël ont conclu un contrat de fourniture de 64 milliards de mètres cubes de gaz naturel pour 15 milliards de dollars. Il sera extrait des champs offshore, Léviathan et Tamar en Méditerranée. Le consortium comprenant Delek, le groupe américain Noble Energy et la compagnie égyptienne Dolphinus assurera cette fourniture.
Yacouba Ouedraogo, rebonsoir.
Rebonsoir Abdourahman.
Alors on démarre cette page des sports avec l'arbitrage vidéo qui sera utilisé samedi à l'occasion de la Supercoupe de la CAF.
Tout à fait Abdourahman, la Supercoupe de la CAF qui oppose les Marocains du Wydad Casablanca aux Congolais du TP Mazembe. L'assistance vidéo à l'arbitrage aurait dû même être expérimentée lors du championnat d'Afrique des Nations 2018, mais l'expérience est transformée en une simple répétition générale. Les débuts de cet arbitrage en Bundesliga et en Serie A ont été marqués par quelques confusions et de longues interruptions de jeu liées justement à l'inexpérience des équipes arbitrales.
Plus de 80 candidatures pour le poste de sélectionneur en Guinée.
Lapey Bangoura, qui a quitté son poste de sélectionneur, en fait, qui a été limogé de son poste de sélectionneur lors du CHAN 2018. Et la succession donc, est donc ouverte. Et ce ne sont pas les candidatures qui manquent, Abdourahman. La FEGIFOOT, Fédération Guinéenne de Football, dit avoir reçu plus de 80 dossiers. D'après la presse locale, des techniciens africains à l'instar de l'Ivoirien François Zawi ont postulé, tout comme Diambobo Baldé, ancien capitaine du Sili National. L'Italien Marco Simone a aussi postulé. Les Français Roger Lemaire et Michel Dussy ont également envoyé leurs dossiers, de même que les Belges Hugo Broos et Paul Put.
Justement, Paul Put a démissionné de son poste d'entraîneur de l'équipe kényane.
Oui, Abdourahman, l'annonce a été faite aujourd'hui par la Fédération kényane de football qui avance des raisons personnelles aux techniciens belges. Deux mois seulement après sa prise de fonction, âgé de 61 ans, Paul Put a amené le Kenya jusqu'à la victoire de la Coupe CESAFA des Nations en décembre. Le Kenya est actuellement troisième du groupe F dans les éliminatoires de la CAN 2018 et va rencontrer le Ghana, leader de la poule, le 7 septembre à Nairobi.
Et en Europe, les matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des Champions se poursuivent.
Un choc retient toutes les attentions. Chelsea FC Barcelone, un choc qui semble se résumer en un exploit où la porte à la fin de la saison pour le technicien italien de Chelsea, Antonio Conte. Mission moins compliquée a priori pour Jupp Heynckes, l'entraîneur du Bayern Munich, qui reçoit Besiktas.
Voilà, merci beaucoup Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, on passe au dossier du jour. Au Togo, c'est parti pour 10 jours de discussions entre le pouvoir et l'opposition. Au cours de cette première journée du dialogue politique, les participants planchent sur les mesures d'apaisement face à la crise sociopolitique dans le pays. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Enfin, le dialogue politique s'ouvre à Lomé après plus de 6 mois de crise marquée entre autres par des pertes en vies humaines. Sous la facilitation du Ghana, le parti au pouvoir et la coalition des 14 partis de l'opposition se retrouvent autour de la même table pour des discussions. Le chef de l'État ghanéen, qui a présidé l'ouverture de ces pourparlers, a appelé à une prise en compte de l'intérêt des Togolais. Nana Akufo-Addo.
Un dialogue qui va faire que le peuple togolais et leurs intérêts sont bien pris en compte dans tout ce qui est fait ici. Et leur intérêt pour avoir un État démocratique, un État régi par l'État de droit, un État ouvert qui permette le peuple de s'exprimer librement et de choisir leurs dirigeants dans une manière transparente et libre.
Estimant que les racines de la crise togolaise remontent à janvier 1963, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, a appelé le pouvoir de Lomé à prendre ses responsabilités.
Notre participation aux présentes assises demeure liée à l'achèvement des mesures d'apaisement convenues. Le peuple togolais, meurtri, excédé, mais résolu et déterminé, est à l'écoute. Il est debout et il attend. Il nous attend.
Charles Kondi Agba, le président du comité des sages de l'Union pour la République unie, a réitéré l'esprit d'ouverture de son parti.
Nous venons à ce dialogue dans un esprit d'ouverture, parce que nous savons que notre intérêt à nous tous Togolais est d'arriver à résoudre dans la tolérance et le respect mutuel tous les griefs, quelle que soit leur nature.
Les acteurs politiques togolais se disent excédés par la crise et souhaitent que ce dialogue puisse aboutir à des résultats concrets.
Que par ce dialogue, que nous puissions aboutir à des solutions durables à ces crises, à recyclage quasi permanent.
Tout le monde doit laisser tomber les masques et parler à cœur ouvert, mais trouver des solutions qui sont dans l'intérêt de toute la population togolaise.
Nous espérons que les choses se passeront bien et que le peuple togolais s'en sortira gagnant.
Les deux parties se donnent une dizaine de jours pour examiner les 12 points inscrits à l'ordre du jour. Le défi principal de ce dialogue est l'élection présidentielle de 2020 avec ou non la participation de l'actuel président de la République togolaise, Faure Gnassingbé. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La grève des enseignants en Guinée entre dans sa deuxième semaine. Des élèves ont manifesté ce lundi à Conakry pour exiger la reprise des cours, tandis que le gouvernement menace de couper les salaires des enseignants grévistes. Reportage Zakaria Camara.
Le gouvernement guinéen parle de démarches, d'explications, des règles régissant le dialogue social, mais aussi de sacrifices consentis par l'ensemble des partenaires sociaux pour aboutir à des avancées majeures. Dans une communication publiée dimanche, il appelle à la fin de la grève avant de menacer de ne pas payer le salaire de tout enseignant qui persiste à ne pas se rendre en classe. Ce matin, toute tentative de reprise a été repoussée par des manifestants à Conakry. Le lycée Bouakar Biro est l'une des rares écoles où les cours ont été dispensés, mais après des heures, avec les défenseurs de la grève, Alexandre, élève de terminale.
Ceux qui n'étudient pas, parfois, ils se mettent contre nous, ils se fâchent, ils viennent pour nous perturber. On a sensibilisé nos camarades d'élèves, on leur a dit on sera confronté à tout problème. Donc attendez-vous à tout. On savait quel que soit un jour, ils pouvaient y arriver. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Ils sont venus, on leur a repoussé, ils sont repartis. Et les cours ont continué.
C'est le proviseur du lycée qui a demandé aux élèves de venir suivre les cours. Alassane Bereté ne semble pas partager le mot d'ordre de grève.
S'ils ont des enfants en Hongrie, en Espagne, en Hollande, qui laissent les enfants et les autres étudier. Vous voyez ici des vieilles qui sortent le matin à 5h du matin. Il y a des vieux au champ à l'heure où je vous parle. Ce sont ces enfants à qui nous avons au lycée ici. Comment un seul individu est perturbé l'avenir et ces enfants-là.
Le gouvernement avait annoncé un dispositif de sécurisation des écoles et menacé de traduire devant la loi toute personne interpellée dans une tentative de perturbation des établissements scolaires. Dans plusieurs endroits de la capitale, des jeunes manifestants ont utilisé des pierres contre les éléments des forces de l'ordre. Selon le porte-parole de la gendarmerie nationale, un gendarme a été tué. Conakry, Zakaria Camara, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Le Burkina et l'Afrique viennent de perdre en Idrissa Ouédraogo, un cinéaste de renommée internationale. À Ouagadougou, les témoignages sur cet habitué du FESPACO, deux fois lauréat de l'étalon d'Yenenga, sont unanimes sur son talent. Reportage Zoumana Wanogo.
Un monstre sacré s'en est allé, un baobab est tombé, un monument du cinéma africain s'est écroulé. Tels sont, entre autres, les qualificatifs des témoignages concernant Idrissa Ouédraogo. Alors, quels étaient les rapports entre le monstre sacré et les femmes dans le cinéma? Écoutons Azaratou Ouédraogo, chargé de production des films du dromadaire.
Idrissa et les femmes dans le cinéma. Je n'ai jamais travaillé avec Idrissa, mais en tant qu'aujourd'hui chargé de production, Idrissa est une référence en matière de production cinématographique. Et je sais aussi qu'il a coaché d'autres femmes. Il a aidé d'autres femmes à tourner, notamment Apolline Traoré. Je vois aussi que dans ses films, il donne une image positive de la femme. Quand je prends l'exemple de Tilaï, le film d'Idrissa Ouédraogo qui a remporté le talon, il parle de la violence faite aux femmes. L'actrice principale, on va dire, qui a été mariée de force après le départ de son mari et qui a essayé malgré tout de se rétablir dans ses droits. Donc Idrissa, il a participé, on va dire, à la promotion de la femme dans le cinéma.
Source d'inspiration, Idrissa Ouédraogo l'aura été pour beaucoup de jeunes dans le domaine du cinéma, suivant le témoignage de Charles-Auguste Koutou, plus connu sous le nom de comédien Pape Diop.
C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec lui, mais vraiment une figure emblématique du cinéma au Burkinabé que j'ai connu depuis mon bas âge, qui faisait figure de modèle et qui fait toujours figure de modèle et qui fera toujours figure de modèle, je pense. Et vraiment, c'est dommage qu'au moment où on pensait qu'il était en train de vouloir faire la consécration de ses œuvres, qu'il disparaisse aussi brutalement, qu'on l'a vu ainsi fait. On ne peut rien contre. Tout ce qu'on nous reste à faire, c'est de garder en lui le caractère immortel du métier qu'il défendait.
Idrissa Ouédraogo est un comédien. Il vient juste de manquer la belle occasion de travailler avec Idrissa Ouédraogo sur un film, suivant son témoignage.
Il m'a remis le scénario rien que la semaine passée, discuté après, mais malheureusement, Dieu a fait sa volonté. C'est un scénario, le rêve de Sita. Voilà, donc j'avais commencé à lire, j'avais pas pu parcourir tout, mais bon, c'est un projet qu'il avait, qui lui tenait à cœur. Voilà, donc je le côtoyais. Ce que je retiens de l'homme, c'est vraiment quelqu'un qui est rigoureux dans son travail. Parce qu'avec les comédiens, par exemple, Idrissa réussissait à te faire sortir de tes tripes pour donner le meilleur de toi-même.
Ce soir, à 20h, un grand hommage sera rendu à Idrissa Ouédraogo par le monde du cinéma burkinabé. Zoumana Ouédraogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Voilà, donc retrouvez également l'intégralité de l'interview d'Idrissa Ouédraogo avec Roger Muntu dans le RM Show. Ce sera tout à l'heure à 20h, temps universel.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, c'est la fin de cette édition. Réalisation Georges Léonard Sagno, à la console Régis Adrius. Présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voaafrique.com pour l'actualité en continu. Au revoir.
Tu te retrouves seul face à ton destin.
Une chance quoi, mais
après le show, le gars porte un costume, cravate, serein dans son coin. Au début, ce jour est dangereux, il ne calcule pas quelqu'un. Mais si tu le vois mouler, c'est que la dose est montée. Tu as su son front, ne peut plus l'arrêter. Y a d'autres qui sont fatigués, qui refusent de rentrer chez eux. Toi, papa des gens, voilà l'alcool t'a humilié. Moi, je bois plus haut.
Jésus soule,
soule,
coupé,
coupé,
n'yéné, oh,
chèque fatigué,
bois plus haut,
cadet Michel Banet,
Jésus soule,
soule,
coupé,
coupé,
n'yéné, oh,
laisse mon daïko, Felipe de Blackis,
dame de mon daïko,
Rambo de Novara, Serge Kouachi,
ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le troisième lundi du mois de février, les Américains célèbrent la journée des présidents en honorant leurs leaders nationaux, passés et présents. La journée visait initialement à rendre hommage au premier président et probablement l'un des plus influents pères fondateurs, George Washington, né le 22 février 1732. Cette date est devenue une journée officieuse du souvenir en l'an 1800, un an après la mort de Washington. Depuis lors, environ 50% des États américains l'ont modifié pour y inclure le 18e président américain, Abraham Lincoln, à juste titre. Né le 12 février 1809, Lincoln, comme Washington, a été très influent dans la fondation et le développement des États-Unis. Washington a mené l'armée rebelle qui a arraché l'indépendance à la couronne britannique et a placé le pays sur des solides bases financières. Il a dirigé la jeune nation à travers les douleurs de l'enfantement qui ont fait suite rapidement à la naissance d'un gouvernement stable, démocratique, basé sur la loi. En quittant volontairement la présidence après deux mandats de 4 ans et en assurant un transfert pacifique du pouvoir à son successeur élu, George Washington a créé un important précédent pour tous les futurs présidents. Lincoln a, pour sa part, su maintenir l'unité d'un pays déchiré par une vicieuse guerre civile et ouvert la voie en temps de paix à une répartition du pouvoir entre les entités fédérales et les États. Son action a transformé une fédération d'États réunis sous un gouvernement central faible en une vraie union dirigée par un gouvernement fédéral fort. Ces changements ont commencé avec les lois sur l'esclavage. Avant la guerre civile, l'esclavage était légal dans certains États. D'autres États l'ont interdit. Le 1er janvier 1863, le président Lincoln a promulgué la proclamation de l'émancipation abolissant l'esclavage dans les États rebelles. Ceci a conduit à l'adoption du 13e amendement de la Constitution et qui a aboli l'esclavage dans tout le pays. Nous honorons les présidents Washington et Lincoln parce qu'ils incarnent les valeurs et les caractères qui anoblissent le service public. À l'occasion de la journée des présidents, nous honorons les présidents présents et passés qui continuent de respecter leur serment de préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.